E feliz, depois continuaremos a nossa conversa com o rei da Andel Mussin, que está na nossa companhia, foi jogador do Vila Real de Santo António também, TikToker, é também criador de conteúdo. Fique na nossa companhia, já voltamos.
Tribuna Desportiva. 22 horas. Rádio Alfa.
Bonsoir à tous. Le nord d'Israël visé par des frappes. L'Iran a affirmé continuer son offensive jusqu'à ce que l'État hébreu arrête d'attaquer. La radio-télévision d'État iranienne a également été touchée par une frappe israélienne en direct. Les frappes israéliennes ont tué au moins 224 personnes en Iran, selon le ministère de la Santé, depuis le début des offensives. Au moins 24 morts ont aussi été recensés depuis vendredi du côté israélien. François Fillon va-t-il aller en prison? L'ancien Premier ministre connaîtra demain sa peine définitive dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. En première instance, en 2020, François Fillon s'est vu infliger 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme. Sa compagne Pénélope a, elle, été définitivement condamnée à 2 ans de prison avec sursis, ainsi que 375 000 euros d'amende. Une bonne nouvelle pour la filière du bâtiment, le dispositif MaPrimeRénov, un temps suspendu, va finalement pouvoir continuer à être utilisé. Attention, il reste actif pour un nombre de travaux limité. Cela concerne les travaux isolés de rénovation, comme un changement de chaudière ou encore de fenêtre. La Fédération française du bâtiment avait menacé de se mobiliser dès le 2 juillet si la suspension des aides à la rénovation énergétique était maintenue. Ces obsèques ont lieu ce mardi. Mélanie, la surveillante tuée par un collégien la semaine dernière à Nogent-Haute, Marne sera inhumée demain. Elle recevra la Légion d'honneur à titre posthume. Le collégien suspecté de son meurtre est toujours en détention provisoire. Aux États-Unis, le meurtrier présumé d'une députée du Minnesota a tenté de se rendre chez d'autres élus. Information du procureur de l'État, 2 tentatives d'intrusion ont échoué. Arrêté dimanche soir après 2 jours de cavale, cet homme âgé de 57 ans est visé par 8 chefs d'accusation au total. Et enfin, c'est un record en France, plus canodin, 3 amis ont pêché un silure mesurant 2,75 m de long ce vendredi près d'Albi, dans le Tarn. C'est le plus gros jamais pêché dans l'Hexagone. L'animal, qui pesait pas moins de 150 kg, a ensuite été relâché dans l'eau. Très bonne soirée, à notre écoute.
Tribune Sportive.
On a tous ce copain, cette cousine, ce voisin qu'on admire parce qu'il donne son sang régulièrement. Et si c'était le moment pour vous d'en faire autant? Oui, si là, tout de suite, vous l'appeliez pour lui proposer d'aller donner votre sang ensemble. En juin, tous unis par le don. Rendez-vous sur le site Don de sang de l'établissement français du sang.
Radio Alpha.
Tribuna Desportiva. Entre as 21 e as 23 horas.
É isso, estamos consigo sempre entre as 9 e as 11. Vamos continuar a falar de futebol. Temos connosco em estúdio o empresário Olivier Feliz. Temos também o jogador Mamadou Doumkara e ainda o Reda Abdel Mohsin. Ele é jogador e é também criador de conteúdos. Vamos a falar com ele na segunda hora, daqui a pouco, nesta edição da Tribuna Desportiva. É um prazer enorme estar consigo. E on va reprendre donc la langue de Molière pour parler un petit peu avec. Continuer à parler avec Mamadou Doumkara. On va le libérer dans une dizaine de minutes. On voulait juste savoir et connaître surtout la suite. Voilà, comment tu regardes surtout ton futur, comment tu projettes vers l'avenir, Mamadou. Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Ou qu'est-ce que toi tu peux dire de toi? Quels sont tes objectifs?
Qu'est-ce que tu te dirais si tu
te disais de toi? Voilà, c'est ça.
J'ai un contrat avec Chavez et pour l'année prochaine déjà, j'espère être titulaire et faire tous les matchs. Pour partir en première division ou bien monter avec eux. Et une fois en première division, pourquoi pas viser les gros clubs d'Europe.
C'est un beau challenge, là, monter avec Chavez en première ligue cette saison.
Oui, c'est la saison.
Bon, c'est cette saison ou pas, oui. 23 ans, hein, c'est ça?
Oui, j'ai 23 ans.
Voilà. Donc tu l'as fait, s'il te plaît. Il y a beaucoup de gens de Chavez qui t'écoutent. Hein.
Non, franchement, l'année dernière aussi, c'était un peu de justesse. Malheureusement, dans les derniers matchs, on n'a pas su gagner les matchs qu'il fallait. Et là, cette année, on verra comment ça va se passer, mais j'espère vraiment qu'on va monter tous ensemble et on va se donner les moyens, en tout cas, ça c'est sûr.
Pour ça, il faut avoir les clés.
Ah, c'est ça.
il fallait la faire, la blague. Charge clé, ouais.
Ouais, la clé de la montée.
L'année dernière, c'est 10 points environ qui manquent à cette équipe pour aller les trois premières places. Oui. Ça a été à quel moment que... Vraiment à la fin, comme tu as dit, ou est-ce que déjà en cours de route
Non, c'était plus à la fin parce qu'il y avait des 1 ou 2 points de différence avec les vainqueurs Tondela et Alverca. Mais malheureusement, les confrontations directes avec Alverca et Tondela, on les a perdues. Et c'est ce qui a fait qu'on a perdu des points et on n'a pas su les coller comme il fallait.
Entre la première et la deuxième division, il y a beaucoup de différences ou pas au Portugal ?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de différences parce qu'en première division, il y a des joueurs beaucoup plus techniques, je trouve, et ça va beaucoup plus vite. Il faut être beaucoup attentif sur les attaquants parce que lorsqu'on est inattentif, 1 seconde, 2 secondes, ça peut aller dans le dos et il y a but. Et franchement, si on passe à travers un match... C'est très très dur parce que tous les matchs comptent en première division.
Bon, Mam, on a parlé un petit peu de Dejan Chavez. Tiens, oui. Il y a Jean Ramj qui nous envoie un message sur le WhatsApp de Radio Alpha. Mamadou, qu'est-ce que tu aimes le plus au Portugal ? Culture, bouffe, fille ? Non, pardon. Non, il n'a pas dit fille, c'est moi. Culture, bouffe. Qu'est-ce que tu aimes ?
Non, je suis plus poisson, bacalao.
T'as déjà vérifié, il y a vraiment un plat par jour de bacalhau ou il t'en manque encore quelques-uns ?
J'ai pas vérifié, mais c'est pas mal.
Qu'est-ce qui a été le plus compliqué justement en arrivant au Portugal ? Quand on est parisien, qu'on arrive au Portugal, hop, balancé. Bon, il y avait l'aide d'Olivier, mais quand on arrive, c'est une autre réalité ?
C'est la langue, c'est très compliqué parce que la culture elle est différente. Nous, on n'a pas l'habitude de faire certaines choses qu'eux, ils ont l'habitude de faire là-bas.
Sortir, aller boire un café.
Oui, même en France, je ne le fais pas, mais là-bas, c'est quand même...
C'est culturel.
Là, c'est culturel et il fallait s'y adapter. Mais j'ai eu les bonnes personnes avec qui j'ai fait ma formation et on est tous arrivés en équipe première, les Dani Silva, Amaro. Et aujourd'hui, ils sont dans des gros clubs et ils m'ont beaucoup aidé.
Ça t'a étonné que les gens dans la rue disent bonjour ? Ce qui n'était pas le cas à Paris.
Non, faut pas dire ça.
Dans le quartier de Mamadou, tout le monde le connaît. Ils disent bonjour.
Je ne disais pas dans le quartier, évidemment. Dans le quartier, il y a le bonjour. Mais quand tu vas dans Paris même, bon... Ouais.
En même temps, c'était difficile. Hein. Si tout le monde te dit bonjour, tu sors plus de là-bas. Bon, Mamadou, juste pour en finir, on va parler juste un petit peu aussi avec Olivier, juste pour finir aussi. Ouais. Olivier, Yufturk, mec, t'as assuré ou non ?
Je t'ai. On n'est pas à se plaindre pour l'instant. Bon, il y a Mamadou, il y a Jean-Baptiste Gorbi à Braga, il y a Yanis Darocha, j'ai Marvin Olimbi. C'est le seul défenseur qui a réussi à stopper Victor Gyokeres. Hein. Si on regarde Gilles Vicente Sporting. Non. Marvin qui est arrivé à Touriens, on a fait le transfert à Gilles Vicente l'été dernier. Et je pense qu'il a un grand futur aussi, comme Mamadou. Voilà.
Olivier, moi j'avais une petite question justement sur... on en a parlé, la CAN c'est une compétition importante, mais justement pour les clubs, est-ce que ça peut poser des problèmes, ça peut poser questions ? Est-ce que justement quand tu proposes à un joueur qui a des origines africaines ou qui joue pour une sélection africaine, il te la pose cette question ? Ou est-ce que toi-même tu dis tout de suite, voilà, il y a la possibilité qu'en décembre, janvier, il puisse partir ?
Oui, bien sûr, ça peut être un problème. Mais généralement, on ne me pose jamais ce type. Questions, tu vois, les clubs ils sont pas regardants. Si c'est un joueur qui va à la CAN, c'est bien pour eux parce qu'il est dans la vitrine. Donc il n'y a qu'à voir si Cunha quitté, qui est à Braga, tu vois, c'est bien pour Braga, tu vois, parce que Braga cherche à le vendre. Peut-être qu'un jour Mamadou va prendre sa place. On sait jamais. Donc c'est une vitrine, hein, quand même. Parce que la CAN est quand même regardée hein, par les plus grand scout
et de plus en plus européen, de plus en plus ouais.
Mais tu sais qu'il y a beaucoup de clubs qui se plaignent surtout bien en Angleterre, bien sûr, en Espagne, en France
au Portugal moins tu vois. Mais c'est vrai qu'en France c'est l'un des pays c'est un gros problème, mais ils le savent déjà. En Espagne c'est pareil. Donc après, ça peut être un débat qui peut durer.
Un dernier mot, Olivier. Un petit message pour les éditeurs de Alpha.
On est encore à moi, mais qui continue à écouter cette émission qui est de très grande qualité. Hein.
Mmh. Donc, ça fait 30 ans qu'elle est.
Mais oui, mais j'écoute. Hein, j'écoutais déjà il y a.
C'est la plus vieille de la radio.
Déjà du temps de.
Ça nous rajeunit. Ça nous rajeunit pas.
Elle est majeure, c'est bon.
Moi, j'écoutais tous les on dit urlatos. Oui. L'équipe de Lusitanos quand on voit chez Stavros. Je me rappelle la Coupe de France contre le Parmentin.
Stadio chez Aishwiaki.
Ah oui. Donc j'étais un fervent
supporter.
Supporter.
C'est bien. Nous aussi, on était tous. J'écoutais. On y est encore.
Non, mais c'est bien. Vous faites du bon travail.
Obrigado.
C'est au niveau de, pour la communauté portugaise, c'est très important. Moi, ça m'arrive les matins de mettre la radio off et d'écouter. Non, c'est même pas une question de ça. En étant honnête. Donc, c'est une radio.
Merci, Olivier.
La première chose, quand je suis arrivé à Paris, parce que moi, je suis né ici en France, j'ai fait mon armée, je suis parti au Portugal. Et après, je suis revenu faire mon armée, je suis resté ici. Donc. Je suis reparti au Portugal et après, je suis arrivé en voiture par un copain. Donc, quand il arrive à Paris, première chose, la radio, Radio Alpha. Et quand tu l'as, j'ai écouté Radio Alpha.
C'est très bien.
Sauf que maintenant, c'est dans le DAB, donc DAB+, donc maintenant, on peut voyager avec.
C'est ça.
Et puis, les jeunes, on faisait l'armée avant. Je sais pas. Moi, je ne l'ai pas fait non plus, mais je vous le dis.
Oh, t'inquiète pas, ça va revenir.
Vous êtes très bien.
Mam,
c'est top.
Un petit mot aussi.
Non, je vous remercie beaucoup pour cet accueil. Ça a été un bon moment avec vous.
Bah, quand tu veux. Hein.
Et j'espère vous revoir à bientôt.
Mm-hmm. Tu payes un verre ?
Bien sûr. C'est pour moi.
Donc, on doit tous souscrire à Chaves et être pour le Mali à la CAN.
Exactement.
Merci, Mam, en tous les cas, d'être passé à la tribune. Obrigado, Luis. Obrigado, Luis. Luis, non, Olivier. Olivier, Félix.
Obrigado, Léo.
Obrigado.
Obrigado, Luis. Não tostarás também.
E já sabe, os jogadores, as nossas portas são sempre abertas para o Olivier para trazer aqui os jogadores.
E a descoberta é sempre importante.
Vai
ficar cá.
Muito bem, on va parler tout à l'heure avec Reda Abdelmohsine, mais avant, on va parler, Marco, de basketball. Basketball, com o Ricardo Vasconcelos, foi uma entrevista cedida à RFI e que foi a oportunidade do Marco.
Sim, porque a partir de quarta-feira Portugal participa pela primeira vez no Eurobasket feminino, vai decorrer em quatro países, Itália, Grécia, Alemanha e Chequia. Sim, para as pessoas que não sabem, a República Checa já é a antiga forma agora.
E a Chequia?
Exato, a nova moda Chequia. É dizer Chequia. Portugal vai jogar em Brno, num grupo complicado com a Bélgica, o Montenegro e com, claro, a Chequia. Primeira participação e falamos então com a Ricardo Vasconcelos para saber primeiro como é que decorreu essa preparação com vários jogos que decorreram amigáveis, 3 vitórias, 3 derrotas para Portugal e depois, claro, os objetivos desta seleção.
Os jogos são de controle, os jogos são de aferir um pouco os pontos positivos, os pontos negativos da equipa, onde é que temos que melhorar, por onde é que estamos a ir, do que já temos, o que é que está adquirido, o que é que está por adquirir, e portanto estes jogos de treino, além do ritmo obviamente competitivo, eles dão-nos muitos sinais dos aspectos onde há que melhorar e dos aspectos que estão bem dominados nesta fase. Portanto, a performance é positiva, estamos satisfeitos com os resultados obtidos, com os desempenhos da equipa, estamos muito contentes. Obviamente que tivemos mais preocupação em observar as jogadoras, poder fazer a nossa escolha das jogadoras que vão estar no europeu e as que estão podendo continuar connosco, teríamos que ver do ponto de vista defensivo e ofensivo, onde é que a equipa apresentava boas performances e onde é que teríamos que melhorar aspectos. E para isso servem e estão a servir os jogos de controle.
Completamente satisfeito de todo o estágio até agora, não houve percalços.
Temos por um jogador com a Maria Kosturkova, que foi uma jogadora que fez toda a nossa fase de qualificação, não é? Que nos ajuda muito há uns anos esta parte, mas que teve que fazer uma intervenção cirúrgica depois da nossa última janela e tínhamos alguma expectativa que ela pudesse recuperar tempo de se incorporar à equipa e isso não foi verdade, mas ela não pôde, ela infelizmente a sua recuperação não foi tão bem como nós gostaríamos que fosse para ela poder fazer parte desta equipa final. E então é o nosso grande percalço, não é? Portanto, ela é uma jogadora que tem nos acompanhado nos últimos feitos e é uma jogadora grande, onde nós não temos nunca muitas opções, não é? Porque nós somos provavelmente um povo de características de centímetros de jogadoras grandes, não é? E ela, estando fora, pôs-nos aqui uma dificuldade adicional. O bom dentro do mau é que isso aconteceu bastante cedo, ou seja, desde o início vimos que a recuperação dela, quando chegámos ao estágio, que não estava no ponto certo e rapidamente momento entendemos que não íamos contar com ela, portanto pudemos ajustar e reajustar o que tínhamos que fazer para poder competir sem ela. Mas obviamente é a parte menos positiva do estágio até aqui, porque obviamente que era uma jogadora com quem contávamos e não vamos poder contar. Tudo o resto foi dentro daquilo que são as situações normais, não é? Tanto pequenos toques, pequenos lesões, cansaços de época normal. Estes finais de época são sempre duros, não é? Para todas as jogadoras, mas tudo dentro do expectável e do que esperávamos.
Jogadoras preparadas para o europeu e selecionador também preparado para esse europeu?
Sempre, não é? Já só queremos é que a bola vá ao ar. Neste momento sentimos-nos preparados, quer a equipa técnica, quer as jogadoras, com as ideias bastante mais claras do que nunca do que é que temos que fazer para fazer uma prestação positiva no europeu.
Justamente esse europeu começa diretamente com a Bélgica. O que é que podemos esperar desse primeiro jogo? Vai haver aqui uma mistura também de sentimentos, de emoção para as jogadoras. Também é essa parte que tem que se controlar, essa parte mais emocional?
Muito, não é? Muito. O que mais vai haver é exatamente isso, não é? O que mais vai haver é ansiedade, é nervosismo de estreia, não é? De somos principiantes, nunca estivemos neste palco, é uma novidade diferente, é algo que nunca vivemos antes e portanto vamos ver pela primeira vez. E quando se vivem as coisas pela primeira vez, nunca ninguém sabe exatamente até que ponto está ou não preparado para as viver, não é? Temos aquele desconhecido connosco, que é a primeira vez que estamos num palco de um europeu, mas também ao mesmo tempo temos uma grande motivação e temos uma grande ilusão de que as coisas possam ser muito bonitas para nós, porque o facto de estarmos presente é um grande feito. Mas como isso já é passado, porque já estamos presentes, já vamos estar presentes, a partir daqui vamos fazer mais e melhor. A Bélgica, vamos lá ver, para quem está pela primeira vez no Campeonato da Europa, afronta-se ao atual detentor do título da Europa, né, porque são os últimos campeões europeus, foi precisamente a Bélgica, não é aquilo que se possa dizer uma tarefa fácil, é umas boas-vindas assim um bocadinho duras. Mas ainda assim, também a verdade é que temos que ser já com o sentimento de que ninguém espera que Portugal ganhe a Bélgica, portanto também jogamos com muito pouca pressão. Temos os nossos objetivos claramente definidos para ganhar um primeiro jogo, ou seja, queremos ganhar um jogo o mais rápido possível, porque é a próxima história que podemos fazer na nossa história é ganhar mais um jogo no europeu, porque se nunca tínhamos qualificado, já o fizemos, a única coisa que nunca conseguimos foi ganhar um jogo no europeu, portanto esse é o nosso próximo grande objetivo. Se é a Bélgica esse jogo, não será com certeza a equipa mais fácil para o fazer, mas como no basquete não há empates, temos que ir claramente com a mentalidade de o que há que fazer para ganhar a Bélgica. Não há outro plano de jogo possível. Não podemos jogar para outro resultado.
Depois há também a seleção da Chequia. É esse o adversário mais abordável ou nem por isso?
Neste momento a equipa que mais está em fase instável e irregular é Montenegro. Montenegro, que é tradicionalmente uma equipa forte nestas andanças do basquetebol, porque como equipa em jugoslavo que é, tem muita tradição, mas é uma equipa bastante instável, com uma dependência muito grande de uma norte-americana que ainda não se incorporou no estado por lesão. Portanto, nós não sabemos se ela vai estar ou não presente. Ela não estando presente, o Montenegro é claramente o adversário mais acessível a Portugal. É a equipa que está melhor no ranking da FIBA que a equipa portuguesa. Ainda assim, é a equipa que tem mostrado mais instabilidade nos últimos jogos, tanto de preparação como de qualificação. Portanto, é uma equipa que não encontrou ainda um novo rumo sólido para voltar ao seu histórico. Ainda assim, para nós sonharmos mais alto, ganhar a Chequia é fundamental. É possível ou não? Há muito tempo que nós jogamos com a República Checa e a República Checa joga em sua casa, vai ter o plus do seu povo, não é? Da sua claque, a puxar por elas e a fazer-nos a vida mais difícil, porque estamos a jogar em casa deste rival, não é? Portanto, é contra elas que vamos ter que jogar. Agora, nós achamos que o jogo mais discutível, onde as nossas aspirações podem subir nas probabilidades de vitória e derrota, é com Montenegro, mas também sabemos que para sonhar um bocadinho mais alto, passa pela vitória perante o jogo com a Chequia. Se é possível ou não, é muito cedo para termos a certeza disso. São forças muito diferentes, a República Checa é uma equipa muito alta, joga muito por dentro, nós é o contrário, é uma equipa muito extensa, joga no campo inteiro, temos que correr, defender agressivo, são duas verdades muito diferentes, são dois basquetebóis, temos estratégias de jogo muito diferentes. Vamos ver quem leva a melhor, não é? Portanto, estaremos lá para preparar o jogo e, na altura, conseguir fazer o nosso melhor plano de jogo possível para poder surpreender os checos.
Sente alguma pressão ou não do público português? Porque sabemos que o público português, enquanto não há apuramento, fica um pouco a olhar apenas para os resultados. E quando há um apuramento, pede-se quase que a equipa seja campeã da Europa diretamente.
Sim, é um pouco a nossa mentalidade, mas eu penso que quem anda nestas coisas não pode sentir essa pressão, porque se sente que é a vida difícil. A minha maior pressão ponho eu mesmo a mim mesmo, não é? E acho que é o que cada um de nós tem que fazer. A procura da melhor, ser a melhor versão, a ideia de que temos que fazer o nosso melhor trabalho e que isso não pode ser que sequer estar em causa perante nós mesmos. A nossa autocrítica é a minha maior pressão. O povo português, eu obviamente que quero é que esteja a torcer por nós, connosco, que nos exija, obviamente, e que nos apoie. Não tenho nenhum problema que queiram mais, a única coisa que quero é que nos apoie, ou seja, que não se abstenha e depois diga, não chega. Isso é que está mal. Tudo o resto está bem. Estão connosco, apoiam-nos do fim, são críticos em relação ao nosso desempenho. Pois com certeza cá estaremos para lidar com essas críticas e fazer o nosso melhor e melhorar e as consequências que isso tudo possa ter. Mas pressão ponho-me a mim mesmo. Ninguém põe mais pressão que eu a mim mesmo. E é a única maneira que eu acho que devemos encarar este tipo de situações, porque a responsabilidade de ser um selecionador é isso mesmo, não é? Eu, a partir do momento que aceito, eu entendo a responsabilidade que isso tem, que se acarreta comigo, que é levar Portugal a desempenhar da melhor maneira possível para que todos os portugueses fiquem orgulhosos. Portanto, é isso que eu quero garantir, que as minhas jogadoras entram em campo e que o esforço fica a todo lado, não é? A pele fica dentro do campo, como se costuma dizer, não é? Isso é não negociável. Se depois temos a habilidade, a capacidade, a estratégia para ganhar, ótimo. Isso não é suficiente, mas que em causa nunca fica o esforço que demos para essa vitória, isso para mim é o mais importante.
Quando uma seleção consegue apurar-se pela primeira vez para um europeu, é a melhor geração de sempre?
É a melhor equipa de sempre. É a melhor equipa de sempre. Não sei se é a melhor geração de sempre, nem sei se é as melhores jogadoras de sempre. Sei que é a melhor equipa e às vezes é aqui que nós nos confundimos, não é? Tendemos a achar que a melhor seleção são os melhores jogadores e não há nenhum erro maior que esse. Este é um desporto coletivo e nós não precisamos dos melhores jogadores. Nós temos jogadores que fazem a melhor equipa. Uma equipa é um puzzle, cada peça se encaixa no seu sítio, para a sua tarefa, para o seu papel, para o seu ego, para as suas tarefas. E nós conseguimos uma grande equipa que cada um sabe o seu papel e cada um encaixa nesse papel e cada um tem orgulho de desempenhar esse papel. E isso não passa por ter os melhores jogadores e nunca passou. Nunca ganha a seleção com melhores jogadores, senão ganha sempre a equipa com melhor equipa. E para fazer uma boa equipa, cada um tem que saber o seu papel e aceitá-lo bem e desempenhá-lo de forma honrosa e satisfeita.
Quando houve o apuramento, foi uma surpresa para si?
Não, surpresa não, foi uma satisfação. Nós, ano após ano, sentíamos que cada vez estava mais perto. No último apuramento, antes deste, ficámos a uma vitória de consegui-lo. Portanto, fomos para o último jogo com essa possibilidade, não conseguimos. Mas antes do último jogo, nosso jogo em casa desse último jogo foi com a Inglaterra, nós tínhamos o jogo ganho e fomos perdidos para o prolongamento. Se tivéssemos já em esse jogo, tínhamos apurado, tanto na qualificação anterior. Nós sabíamos que estávamos cada vez mais próximos. Não era fácil, não era uma coisa que nos correspondia, porque no fundo ao cabo, o nosso lugar no ranking é cá para baixo e, portanto, nós sabíamos que conseguir era surpreender. Mas nós sabíamos que éramos capazes de surpreender. Mas nós fizemos um outcome de 5-1, de 5 vitórias, uma derrota. E ninguém na Europa inteira esperava que isso acontecesse. Se calhar nem em Portugal esperavam que isso acontecesse. Portanto, nós sabíamos que tínhamos que surpreender, mas sabíamos que éramos capazes de o fazer. E fomos capazes num jogo muito difícil, porque ganhar a Sérvia é muito complicado. Como possam imaginar, nós ganhamos mais 10 vezes e não há garantia nenhuma que ganhávamos mais 5. Se calhar ganhávamos mais uma, mais duas vezes, as outras 8 se calhar perderíamos. Mas tínhamos que fazer um jogo perfeito. A verdade é que 2.500 pessoas dentro de um pavilhão em Coimbra ajudaram muito a que isso fosse possível, não é? Os nossos estiveram connosco e isso é muito importante.
De maneira mais geral, sobre este europeu, vê-se, por exemplo, a França, que tem muitas dificuldades, apesar de ter um leque grande de jogadores, mas muitas jogadoras que não vão participar no europeu. Outras nações também têm essas dificuldades para trazer as suas melhoras para o europeu. Então, a minha pergunta é, o que é que vale este europeu?
É realmente uma pergunta interessante, mas isso é mais um debate, quase que uma pergunta, não é? Porque isso obrigava a que cada um pudesse o seu ponto de vista e que, entre vários pontos de vista, chegássemos a uma conclusão. As suas observações são, obviamente, super inteligentes, são super oportunas. Este é um momento em que o que é que a NBA ou a WNBA ou o que é que a América virtua ou muda no mundo? Tanta coisa, não é? Podia falar de política ou outra coisa qualquer, agora estamos a falar de desporto. E esta é uma realidade transversal aos momentos que vivemos. Não é só o desporto que sofre com esta dimensão americana, com esta coisa de por aqui passa-se o mundo e à volta da América pouca gente sabe o que é que está a passar. Eles chamam os jogadores à NBA, pagam o que outros não pagam, exigem o que os outros não exigem, e isso faz com que os jogadores profissionais aqui ou ali tenham dificuldades em saber como gerir estes momentos, não é? Algumas jogadoras da Bélgica, por exemplo, disseram vamos, sim ou sim, independentemente dos americanos depois nos querem de volta ou não. E vêm. Obviamente que a Bélgica tem 10 milhões de habitantes como Portugal, e a França tem muito mais do que isso, e portanto, com muitos mais habitantes que tem e muito mais desportistas que tem, pode-se dar ao luxo, entre muitas aspas, de apresentar uma grande seleção, mesmo sem algumas das suas melhores jogadoras, se terem ainda assim uma das melhores potências da Europa. Isto é justo, isto não é justo. Isto é uma reflexão que a FIBA tem que fazer, a Federação Internacional de Basquetebol Europeia também tem que participar e tem que chegar à conclusão de como é que se pode contrariar estas ideias. A verdade é que a América, desde os universitários, que está a levar todos os jogadores para o campeonato universitário e que está a dificultar a possibilidade de masculinos e femininos na Europa poder fazer as suas melhores equipas. Se eu falar com o Real Madrid, eles estão com estes problemas. Se eu falar com o Fenerbahçe feminino da Turquia, eles estão com estes problemas. E se eu falar com a seleção da França, eles estão com estes problemas. Portanto, isto é uma situação com uma dimensão demasiado grande para ser abordado nesta nossa conversa, que é muito boa e é muito calorosa, mas é a verdade do jogo. As regras não mudaram. Estas são as regras. Todos sabemos quem iam ser. Será a melhor equipa que apareça neste europeu. Se a melhor equipa de cancelação podia ser diferente, se calhar podia, mas para este europeu já não vai ser.
Ricardo Vasconcelos, o selecionador nacional de basquetebol, uma entrevista cedida à RFI e conduzida pelo Marco Martins. Marco.
Sim, de referir que quarta-feira então Portugal vai defrontar a Bélgica e uma estreia que vai ser de veras complicada para Portugal frente às atuais campeãs da Europa. Recordar também que a França está presente, a França que já venceu duas vezes este campeonato da Europa. E agora, tenho uma pergunta para ti, Manuel. Sabes qual é a seleção que tem mais títulos de campeãs da Europa de basquetebol feminino?
Não é a França?
Não é a França.
É uma Grécia ou uma Itália?
Não. Ouvem bem, é a União Soviética, que em 23 edições venceu 21 vitórias da União Soviética. Desde então, abaixo dos 21 títulos da União Soviética, tens a Espanha com 4.
Muito bem, vemos então, já agora Marco, o primeiro jogo é, recorda-nos...
Quarta-feira, frente à Bélgica em Brno, na Chequia, é a partir de 20h30, o primeiro jogo. Então estreia para Portugal na 40ª edição do Eurobasquetebol, primeira participação de Portugal então.
E o Ricardo Vasconcelos, como todos tiveram a oportunidade de ouvir, eu vou reforçar aqui o que ele disse, que história para ele seria uma vitória, seria excelente, não é?
Sim, ele é muito realista, ele disse, a história já está feita, já estamos presentes, mas agora temos que ir além, participar por participar não é interessante, mas é um grupo complicado, a Bélgica campeãs, atuais campeãs da Europa, Montenegro, se eu não estou em erro, 7º lugar no último europeu e Chequia, 8º lugar no último europeu. É a terceira nação com pior ranking em Portugal.
Muito bem, vamos regressar então ao futebol. Tu regardes um pouco o basquete ou pas, Reda?
Não, franchement não. Quand j'étais plus jeune un petit peu, mais là, non. Honnêtement, je regarde plus.
Alors Reda, tu vas commencer par nous parler un petit peu de ton aventure déjà. Tu es parti au Portugal, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans?
2-3 ans? Non, pas du tout. Ça fait 8 mois que je vis au Portugal. Ça fait 8 mois... que je vis au Portugal.
Et tu dis déjà quelques petits mots en portugais, c'était
quelques
pas mal.
Quelques petits mots, je parle pratiquement couramment maintenant. il manque un petit peu de vocabulaire et après... Mais ouais, ça va.
Et comment ça s'est passé en fait? Comment c'est arrivé cette opportunité d'aller au Portugal? Comment t'as fait?
Ah, ça c'est... C'est une connaissance, en plus une connaissance que j'ai en commun avec Olivier, qui travaille aussi dans le football. Et ça s'est fait l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait des tests pour un club qui s'appelle Pivens, Castelo de Paiva, à côté de Porto. Tout s'était très bien passé. J'avais commencé là-bas, j'avais joué 3-4 mois, mais j'avais eu un problème avec l'inscription. La fédération française et portugaise avait mis un peu trop de temps pour m'inscrire. Du coup, je suis rentré en France. J'étais resté 3-4 mois, je parlais pas. J'avais appris quelques mots, les couleurs, les chiffres. Puis après, j'étais rentré en France et je suis reparti au Portugal septembre 2024. Et là, du coup, depuis septembre 2024, je vis au Portugal, dans le sud du Portugal, au niveau de la frontière espagnole.
Et comment ça s'est déroulé, justement ? Tu devais être près de Porto, finalement tu te retrouves Lusitano. Comment ça s'est passé ? Pourquoi Lusitano ?
La dernière, l'opportunité que j'avais, c'était dans le nord. Ça veut dire, j'y suis allé les yeux fermés parce que je sais très bien que l'accueil du nord est différent de l'accueil du sud, sans faire de conflits de rivalité entre le nord et le sud. Mais oui, c'était deux opportunités différentes. L'année dernière, c'était dans le nord, j'ai accepté. Puis là, on m'a proposé le sud. Je sais que le cadre de vie, l'atmosphère dans le sud, elle est géniale. Même si, c'était une année assez pluvieuse, la plus pluvieuse même depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Mais voilà, j'ai pris l'opportunité et mon courage à deux mains pour aller au Portugal.
C'est un club différent de Paivens ou c'est à peu près similaire?
C'est un club différent parce que c'est un club historique. Parce que dans l'Algarve, il y a seulement 4 clubs qui ont atteint les ligues professionnelles. Il y a Farense, il y a Portimonense, il y a Olhanense et Villarreal Santo Antonio Lusitano. Donc et oui, c'est un...
Voltan, non, Voltan, il a joué aussi. pas très haut, non?
Qui ça, Immortal?
Loltan.
Ah, Loltan, non, je crois qu'ils sont à... le maximum, je crois que c'était en Liga 3, il me semble.
Okay.
Il me semble, ça veut dire oui, c'est un club qui a des ambitions. Après, il manquait cette année un peu de moyens financiers. Mais ouais, c'est un club historique quand même.
Comment ça s'est passé justement cette saison?
Cette saison, sur le plan collectif, on va commencer par le mauvais. Parce que oui, sur le plan collectif, ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. On a très très mal débuté la saison avec, il me semble, 6 ou 7 défaites d'affilée. C'était compliqué. On a joué de bonnes équipes. On a joué Mortal, on a joué Portimonense B. Et ouais, franchement, on avait un nouveau groupe. Il y avait 3 ou 4 anciens joueurs de l'équipe et tout le reste, on était nouveau. Mauvaise préparation. Et ouais, on a très mal débuté la saison.
T'as quand même fait 32 matchs.
Mais il était en train de parler de la partie plus collective.
Ouais, là, c'est plus collectif. Vas-y. Ouais, sur l'aspect collectif, ouais, on a été relégué à la dernière journée. Pas de bol. On a eu les mêmes points que l'avant-dernier, mais comme ils nous avaient battus, aller-retour. Bah, c'est eux qui sont restés dans la ligue et nous qui sommes descendus. Après, sur le plan personnel, j'avais commencé du coup la saison. À la base, je devais être dans une division au-dessus. Sauf que le club, il comptait vraiment sur moi et je savais que j'allais beaucoup jouer vu que ça faisait plus d'un an que j'avais pas été en club. Et il me fallait du temps de jeu. C'est pour ça que j'ai accepté ce défi-là. Je suis le joueur le plus capé de cette saison. J'ai joué tous les matchs. J'ai fini meilleur buteur. J'ai fini ouais, meilleur buteur et j'ai le plus de buts et passes décisives. Donc sur le plan individuel, oui, on va dire que c'est ma petite victoire de cette saison.
À quel poste tu jouais sur l'attaque de Lausitane?
J'ai joué principalement sur le côté gauche et en pointe, attaquant de pointe aussi.
Et c'est où que tu as marqué le plus de buts au final?
C'est attaquant de pointe. Même si je suis un ailier de nature. Mais ouais, j'ai appris à prendre la profondeur cette année. J'aime pas jouer dos au jeu. Je suis un ailier qui prend beaucoup. Je suis un peu un profil, on va dire, à la Vardy, qui prend beaucoup d'espace et qui essaie de tirer fort au but. Mais ouais, j'ai apprécié jouer neuf cette année.
Et du coup, avec la descente du club, ça se passe comment?
Bah, pour ça, en plus, j'ai le coach qui m'a contacté, hier pour me demander après, s'il y avait des... Bon, je pense qu'il sait déjà que cette année, c'était une année tremplin pour moi pour essayer d'aller plus haut. Donc, il m'a demandé s'il y avait des possibilités, comme il vient de renouveler son contrat, s'il y avait des possibilités de rester dans l'équipe, si c'était envisageable pour la saison prochaine. Bon, je lui ai dit que j'ai pas encore signé, j'ai pas encore trouvé de club. Je garde toujours une petite porte de sortie, on sait jamais si j'ai rien. On va retourner travailler avec Lusitano, mais ouais,
tu regardais un petit peu ou un petit peu vers le plus haut, un petit peu ou...
Bah, parce que là, c'était première division de district.
C'est ça.
Et là, elle vient de descendre vraiment au plus bas niveau
d'Algarve. Ouais, c'est ça. Bah là, en fait, mes deux offres actuelles, j'ai eu Moncalapaciense, c'est un club qui est en Campeonato et qui a déjà été en Liga 3 il y a 2 saisons, il me semble. Et il y a Luletano aussi, c'est un club, bah, la ville de Lule, je pense que les Portugais connaissent, avec un stade immense. Ils jouent au Campeonato, mais ils jouent dans le plus grand stade d'Algarve. Et ils ont franchement un complexe très très professionnel. Moi, j'ai essayé deux opportunités en Campeonato. Je vais voir si Liga 3 c'est atteignable. Vu que j'ai fait une assez bonne saison, si j'arrive à avoir les contacts nécessaires pour trouver.
Pas de contact avec le fils de Hassan, le célèbre attaquant de Falaise?
Ah non. Oh. J'ai pas de contact.
Bon, Marco, il va te donner son numéro.
C'est vrai que tu resterais donc plus no Algarve? C'est une région qui t'a plu ou en fait pas vraiment d'attache, même en une année?
Honnêtement, moi, mon petit coup de cœur, ça a été le nord du Portugal. Quand je suis arrivé dans le nord, dans ma première équipe, c'était vraiment, on te donne le ballon, montre-nous ce que tu sais faire. Et même des gens qui étaient en concurrence avec moi, ils me donnaient la balle pour me voir dribbler. Ils étaient tous là à m'encourager. Et dès que je faisais un geste, un but, ils criaient. J'ai eu un accueil extraordinaire. Le nord, franchement, ça a été mon gros coup de cœur. Bon, après, sur la météo, on peut pas tout avoir.
C'est vrai.
Mais en tout cas, ouais, sur le nord, l'accueil, c'est mon coup de cœur. Bon, le sud, je pense qu'avec le tourisme, etc., les Portugais du sud sont un peu plus hésitants, réticents à l'accueil. Mais j'ai été très bien accueilli aussi dans le sud, hein, je vais pas mentir. Mais c'est vrai que dans le Nord, ouais, j'ai ma petite référence dans le Nord. Donc si je peux retrouver une opportunité dans le Nord, ça serait un grand plaisir.
Il y en a des clubs dans le Nord du Portugal. Comment tiens, Marco, il va trouver une place à Vianense.
À Vianense, pourquoi pas. Mais bon, eux, ils sont en Campeonat de Portugal. Ils visent la Ligue 3. C'est pas pareil.
Si c'est un bon club de Campeonat, c'est intéressant aussi.
Comment ça a été la vie au Algarve? Parce qu'au final, est-ce qu'on a raison quand on dit que Algarve c'est un peu déconnecté du Portugal? Dans le sens où, en fait, on parle beaucoup de langues, et pas forcément que le portugais. Il y a de l'anglais, il y a de l'allemand, il y a du français, il y a de l'espagnol. C'était un peu ça? T'avais un peu tout ce mélange cosmopolite?
Étant donné que, bon, là, sur l'aspect, je suis créateur de contenu et aussi footballeur, je vais parler de l'aspect créateur de contenu, parce que je faisais énormément de vidéos sur le Portugal, et c'était un point que j'avais remarqué. Quand je me baladais dans les rues d'Algarve.
T'as d'ailleurs une licence d'éco-gestion, c'est ça?
C'est ça exactement.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire éco-gestion, ça veut dire...
Économie et gestion.
Ah, économie et gestion.
Économie et gestion.
Sorry.
Oui. Économie et gestion. D'accord. Là, sur mon TikTok, j'en avais parlé que ouais, quand t'arrives dans le sud, tu vois des Hollandais, des Anglais, c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec le Nord, parce que le Nord, c'est vraiment traditionnel. T'as les bars, t'as les trucs. Mais dans le sud, oui, c'est vrai que... C'est un peu plus touristique et oui, comme tu dis, c'est assez déconnecté, on va dire, du vrai Portugal, enfin le vrai Portugal
traditionnel
et culturel du Nord, on va dire.
Qu'est-ce que t'as préféré là-bas alors du coup?
Dans le Sud.
Les femmes.
Non. En fait, dis-moi juste un truc, juste pour ma curiosité. Tu maintiens, t'as de la famille au Maroc ou non? Ils sont tous en France.
J'ai encore des oncles et des tantes qui sont au Maroc, oui.
Et ça t'arrive d'aller au Maroc ou pas?
Non.
Parce que là, le Algarve, Maroc, tu vois, c'est pas.
Bah, c'est à deux heures.
C'est juste à côté, c'est vrai. Mais notre saison, elle était remplie. J'ai pas pu voyager. Mais si j'avais un petit des petits jours, ouais, je serais parti au Maroc. D'ailleurs, j'y vais dans une semaine.
Ah bah c'est bien. Et quelle ville?
Moi, je suis de Casablanca.
Casablanca.
Et Meknès.
Moi, j'ai un frère qui est marié avec, bon, tout pour raconter l'histoire, mon frère est marié avec une Marocaine qui habite au sud de la France, mais ils ont une maison à Fès.
Ah, incroyable. J'y suis allé il y a deux ans à Fès. C'est magnifique.
Donc, en Portugal, ce que t'as préféré?
Dans le sud. Déjà, moi, je ne suis pas un fan de poissons. Moi, quand on parlait poisson, on parlait poisson pané qu'on achète ici et hop là, on met.
Dessine-moi un poisson, un carré.
J'ai découvert le poisson et franchement, c'est extraordinaire.
Oui,
tout
c'est
ce qui est bacalhau, douradinho, j'ai buffet atum, sardines. Même j'ai mangé du poulpe, j'aurais jamais cru manger du poulpe dans ma vie. Mais franchement, c'est magnifique. Du coup, le poisson dans le sud, j'ai apprécié. Se lever, voir un peu de chaleur, sortir aller à la plage, ça aussi, c'est quelque chose.
Tu fais un peu de surf aussi ou pas?
Comment?
Tu fais un petit peu de surf? Bon, même si là-bas, il n'y a pas beaucoup de surf.
Non, moi, je ne sais pas surfer, je ne sais pas nager tout court. Je rigole, je sais nager. Mais oui, franchement, voir un peu de soleil, boum, tu vas à la plage en 5 minutes à pied, tu y es, ça aussi, c'est quelque chose en tant qu'habitant d'Île-de-France, je ne connaissais pas. Du coup, ça a été un grand plaisir de découvrir et le poisson, et la plage et les plages du Portugal, parce que j'en ai fait plusieurs. Mais franchement, ouais, l'atmosphère du sud est extraordinaire.
Et je voudrais aussi, je sais pas Marco si tu veux continuer, mais je voudrais aussi qu'on parle un petit peu de ta vie extra football quand même. T'es là un petit peu pour parler aussi de ton TikTok. C'est quoi l'adresse? Allez, vas-y, balance.
mon TikTok, ouais, c'est Tops, T-O-P-S.
Ah, c'est pour ça que t'as écrit dans ton maillot, Tops.
Ah, mais c'est mon surnom, c'est pour ça. Ouais.
D'accord.
Donc vas-y, répète. TOPS 94-3.
Voilà, et donc ton contenu, c'est par rapport au sport, tu fais un peu de tout
Sur TikTok, je parle pas de foot. Mes abonnés TikTok, bon, c'est ceux qui sont curieux, ils savent que je fais du foot, mais c'est principalement, comme on dit, du lifestyle. Ça veut dire que je montre tout ce que je fais au Portugal,
voilà,
tout ce que je découvre au Portugal. Je suis là, je montre les pâtisseries portugaises pour ceux qui veulent un peu de souvenirs, pour ceux qui ont des manques. Je montre vraiment tous les boissons, je parle de tout, je montre les plages, je compare. Je donne même des petits cours, des petites leçons en portugais pour les personnes qui veulent apprendre. Même si je suis pas folichon en portugais. Mais ouais, c'est vraiment, mon contenu est basé sur le portugais.
Et tu t'en sors, je veux dire, financièrement, est-ce que tu arrives à avoir quelque chose déjà ou pas?
Oui, sur les réseaux, oui. Ouais. Et grâce au foot aussi, ça va. Après, je n'ai pas l'ambition actuellement d'atteindre des millions d'euros. Je vis simplement et puis, si je devrais gagner plus, je le gagnerai dans le futur. Mais on bâtit déjà quelque chose de solide. L'argent, ça vient après.
Alors, on est d'accord que un pasteur de nata, c'est pas un petit flan.
Ah non, c'est pas un petit flan. Et puis, je tire les oreilles à ceux qui disent ça.
C'est bien. Ton TikTok, tu fais un petit peu d'Instagram aussi. J'ai vu que tu avais un compte. Bon, on ne peut pas dire que c'est un grand compte, mais bon, tu commences peut-être à développer aussi ce réseau, non ?
Sur Instagram, oui, j'étais avant plus actif. Mais maintenant, c'est vrai que Instagram, j'avais un petit peu délaissé pendant un moment. Je mets beaucoup de contenu foot à la base sur Instagram. TikTok, c'est plus l'univers lifestyle. Instagram, c'est plus l'univers footballistique. Après, il y a Snapchat aussi, où c'est vraiment... Je mets toute ma vie sur Snapchat. Mais oui, sur Instagram aussi, ça m'arrive de partager mes exploits footballistiques.
Est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, justement, TikTok, c'est un peu, entre guillemets, le top, dans le sens où on peut rapidement engranger des vues et d'abonnés par rapport à un Instagram, par exemple, qui paraît un peu plus compliqué, en tout cas, Manu.
Pour la petite anecdote, j'ai commencé TikTok il y a maintenant 3-4 ans, ça fait très longtemps. Enfin, très longtemps. Ça fait quand même un bon moment. Et j'ai toujours stagné à 4000 abonnés. Puis un jour, j'étais à la salle de sport au Portugal. Et puis j'ai fait un geste que vous allez voir maintenant. Mais les auditeurs... j'ai fait une vidéo où je parle de ce geste-là en portugais. Et la vidéo fait 3 millions de vues.
Oh, 3 millions de vues.
Et là, boum, je passe de 5000 abonnés à 10 000, puis 12, puis 13.
Tu fais juste ça ?
Juste ça. Juste ça, je dis bon, t'es un vrai Portugais si tu connais ça. Boum, elle est là, il y a 3 millions. Et puis là, c'est parti, j'ai dit ah, purée, elle était là en fait, mon opportunité, c'était le Portugal. Du coup, l'opportunité créateur de contenu et footballistique, ça s'est fait au Portugal. Parce qu'avant, oui, j'étais pas, avant d'aller au Portugal, j'étais pas créateur de contenu. Ça s'est fait sur le tas.
Et comment justement on devient créateur de contenu ? C'est compliqué, c'est une prise de tête quotidienne ou pas ?
Est-ce que c'est stressant ? Est-ce que ça
stresse ? Stressant.
Parce que moi, j'en connais un qui est stressé toute la journée à cause de
est-ce que je vais poster ça ? Est-ce que ça va faire des vues ou pas ?
Bah franchement,
essayer de trouver des trucs nouveaux parce qu'il faut innover. Il faut toujours montrer des trucs que les gens ils ont a priori pas vu encore.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon après, j'ai un outil maintenant qui est extraordinaire pour innover. C'est ChatGPT. J'ai pu utiliser aussi ChatGPT deux ou trois fois pour avoir de l'inspiration. Mais en fait, au début, j'avais beaucoup d'appréhension sur les vues. Mais en fait, le créer du contenu, c'est vraiment du kiff. Ça veut dire que poste ta vidéo, qu'elle fasse beaucoup de vues ou pas beaucoup. Comme par exemple, la première vidéo que j'ai faite ou qui a fait 3 millions de vues, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse 3 millions. Je me disais, oh, elle fait 1000, c'est cool. Elle fait 2000, c'est cool. Boum,
et après,
3 millions.
Tu vois le truc à grandir. Mais
ah oui, après.
Ça t'a fait pas. Une journée, ça a continué à monter, à monter, à monter.
Ah oui, oui, non. Ça, en fait, ça, cette première vidéo, elle m'a rapporté.
J'aimerais bien le 3 millions. Là.
Elle a dû me rapporter, je pense, 4
000. Je vais le faire aussi, t'inquiète.
4 000 abonnés, elle m'a rapporté 4 000 abonnés en quelques jours. Puis j'étais monté à 8 000. Puis après, je me suis dit, bon, autant trouver un autre concept que les Portugais connaissent. Puis j'en ai fait une autre, une autre, une autre, une autre. Après, c'est monté à plus de 10 000. Après.
Et là une vidéo que tu fais, ça te fait quoi? La moyenne, c'est quoi? 5 000, 6 000? Même pas?
Franchement, tout dépend. Tout dépend.
L'algorithme. Parce que moi, je dis franchement, excuse-moi encore une fois. Moi, j'ai commencé avec une petite vidéo qui m'a fait 24 000 vues. Aussi avec des dinosaures à la con en plastique. voilà. 24 000 vues.
24 000, c'est déjà incroyable.
C'est assez énorme.
J'aime bien raisonner.
Attends, mais j'avais 50 abonnés.
Ah mais c'est dingue.
Ouais.
J'aime bien raisonner avec le fait de, imagine t'as 24 000 personnes devant toi. C'est la même chose. Mais franchement, au vu de mes vidéos, je me prends vraiment pas la tête. Bah après c'est l'algorithme TikTok, tu le cerneras jamais. Ça veut dire que tu peux. Voilà, j'ai fait une vidéo là à 90 000 vues avant-hier. J'en ai posté une hier. Je sais pas, j'ai dû faire pas loin de 1000. Je comprends pas. Un jour 90 000, un autre jour 1000. Mais puis c'est comme ça, je ne vais pas supprimer la vidéo.
Est-ce que ça t'arrive de la supprimer justement et de la retravailler ? Tu travailles beaucoup avec CapCut ou pas ?
Au début, je travaillais avec CapCut, mais j'ai vu quelques créateurs de contenu qui disaient que TikTok préférait que tu utilises leur outil pour faire ta vidéo, que ça pouvait augmenter
TikTok, toi, c'est le studio, c'est ça ?
C'est ça.
TikTok, quoi.
Non, RFI, portugais, on a. Donc, nous, parce que je m'inclus dans la rédaction, hein, ça, le maximum, je crois, c'est 300 000 sur une vidéo. Même, ça ne vous étonnera pas du pape.
Ouais. Magnifique.
Incroyable.
Mais ça, moi, je trouve que c'est quand même frustrant parce que c'est pas mon TikTok, ça appartient à la radio. Mais c'est, je trouve des fois frustrant quand, par exemple, toi, 3 millions de personnes qui regardent et un compte à 17 000. Tu vois ce que je veux dire? C'est, on se dit, mais puis en fait, on a un potentiel de 3 millions.
C'est ça.
Et on a envie de dire, mais pourquoi ils se sont pas abonnés?
C'est ce qui est dur, c'est justement, il est là le truc, c'est dur de fidéliser ses viewers, en fait. Et comment les fidéliser? Sortir des vidéos. Essayer de c'est sortir ça. Tous les jours.
Ils aiment apparemment l'algorithme, il adore la régularité.
Régularité, c'est vrai. Au début, j'avais commencé sur mon TikTok avec des vidéos de foot qui marchaient très très bien. Je mettais mes vidéos, boum, beaucoup de vues. J'allais au stade.
Non, mais beaucoup, ça veut dire quoi? Parle-nous des chiffres.
À mon échelle, quand j'avais commencé, j'avais 300, 400 abonnés. Et puis la vidéo, elle faisait 30 000, 50 000. Oh, j'étais déjà content. Je me disais, j'ai 300 abonnés, je faisais 50 000. Mais après, en fait, aller au stade tous les jours, et puis tu vois, même des fois, tu vas au stade, ça te réussit pas, tu essaies de mettre que des belles frappes, tu dis, faut que je mette pour TikTok, et t'en mets pas, et puis voilà. Tu dis, aujourd'hui, je suis allé au stade pour rien. J'ai retravaillé mon image sur les réseaux, je me suis dit, bon, j'ai juste à prendre mon téléphone, parler en selfie, puis ça va, j'ai un physique, comme vous avez pu le voir, assez atypique, et les gens, ils ont adhéré à ça. Mais franchement, l'aspect franco-marocain qui est allé au Portugal, c'est vraiment ça qui m'a fait changer d'univers, on va dire, sur cette application.
Et là, donc, tu as des objectifs, j'imagine, au niveau footballistique, au niveau aussi de créateurs de contenu. Tu vises quoi, à peu près, dans les réseaux? Tu vises
Les réseaux, franchement, j'ai pas forcément, je mets pas toutes mes attentes dessus, car ça peut s'effondrer très très vite. J'ai un ami à moi qui avait un compte à 400 000 abonnés. Du jour au lendemain, il s'est fait bannir sans aucune raison parce qu'il fait pas de contenu provoquant, harcèlant.
Tu peux te faire compte.
Ah oui, il s'est fait bannir son compte sans vraiment aucune raison.
Moi, je connais personne qui s'est fait bannir. D'ailleurs, je viens d'arriver dans les réseaux. Mais ce que je veux dire, c'est que
tu peux avoir des personnes malveillantes en fait, qui vont se plaindre. Voilà. Tu peux avoir des, on appelle ça des espèces de bots qui vont
faire des plaintes.
Et bien souvent, tu peux même pas en fait demander des explications. Eux, ils te bannissent. Point barre. Ils veulent pas savoir qui, pourquoi. Il y a eu plein de personnes qui se sont plaintes. Bon bah hop, on ferme. Et tu sais même pas pourquoi au final.
Oui, et sinon, il y a toute une. Enfin, je viens de découvrir aussi parce que, comme je me suis un peu incrusté dans les réseaux, j'ai aussi découvert qu'il y a toute une tricherie derrière des fois. Hein, je dis pas tout le monde, mais il y a toute une tricherie derrière des comptes, des vues, des commentaires qu'on peut acheter. Comment tu.
J'en ai
c'est
déjà.
C'est pour ça que tu vas doucement, mais sûrement.
C'est ça, ouais. Comme j'ai dit, je mets pas toutes mes attentes à travers les réseaux sociaux parce que tout peut s'écrouler du jour au lendemain et on n'est pas préparé à ça. Bah, comme j'ai dit, mon ami avec un compte de 400 000 abonnés, du jour au lendemain, son compte s'est fait bannir, il essaie de le récupérer, impossible.
Et tu te retrouves sans revenu, en fait.
Sans revenu, sans rien. Bon, ça va, il est étudiant et puis il a pas tout mis sur les réseaux sociaux. Mais c'est pour ça que je mets pas toutes mes attentes. On va dire que les réseaux, c'est plus un kiff. Je partage ce que je vis, les gens aiment. Bon, les gens ne vont pas détester mon contenu parce qu'il est ni provoquant, ni il n'y a rien du tout de ce type-là. Mais je partage mon contenu, je fais kiffer les gens s'abonnent, on profite. Et je ne mets pas toutes mes attentes à travers les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un bon moyen aujourd'hui, parce qu'on est dans l'ère du digital, de
profiter un peu du système.
Exactement. Mais oui, pour le foot, à contrario, je mets plus d'attentes dessus. Je vais essayer de trouver un meilleur club pour la saison prochaine.
Alors, j'ai une question WhatsApp. Question pour Reda, Marcel Sauze. Il y a des fois, il se censure.
Est-ce que tu te censures? Tu t'auto-censures des fois?
Voilà.
Sur mes réseaux sociaux, jamais. Parce que je n'ai pas un contenu provoquant, je suis pas là pour attiser la haine, etc.
Tu dis pas quelques gros mots en portugais?
Oh, si, parfois ça arrive. Bon, ça va. Je pense que l'algorithme français ne comprend pas le portugais. Je pense pas.
Ça m'arrive. Toi. Et l'algorithme chinois, non?
Oh, ça, je pense pas.
Donc, tu paries un peu plus sur le football. C'est un peu continuer la carrière jusqu'au boutisme. Et puis après, tu verras.
Bah, franchement, la vision que j'ai du football, déjà, premièrement, c'est que c'est une passion. Pour commencer, c'est une passion. C'est à peu près comme les réseaux sociaux, ça peut aller très vite en haut comme très vite en bas. Mais franchement, je m'accroche au football parce que j'ai commencé à 5 ans et demi. Mes parents ont toujours été derrière moi et c'est quelque chose que j'ai pas envie de lâcher, j'ai envie de les rendre fiers. Même si ma mère me dit qu'elle est déjà fière de moi avec ce que j'ai accompli, mais c'est pas assez pour moi. Donc ouais, je vais essayer de m'accrocher. Je sais que j'ai les qualités et le potentiel pour jouer au plus haut niveau, donc j'espère trouver un petit coup de pouce qui fera que oui, je...
Oui, Eric,
je sais pas. Parce que je reprends la conversation.
Non, parce que oui, vas-y.
Non, parce que...
Bon. Parce que je sais pas si t'as attrapé toute la conversation.
Non, j'ai pas eu tout, mais je pense à ce que je pose une question que vous avez déjà posée, je sais pas.
Voilà. Allez, tu sors.
Non, justement, dans cette volonté-là de se montrer, des fois, je sais que ça peut faire peur. Notamment je pense à Valentin Liénard qui joue en amateur et qui aussi est très transparent dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il veut montrer. T'as pas peur que ça freine et que ça te fasse louper des opportunités?
Après je sais pas si t'es au courant, mais moi j'ai vraiment l'aspect créateur de contenu. Je ne parle pas du football, ça a rien à voir avec le football.
Non, mais peut-être qu'il y a des clubs qui me disent: attends, tu vas quand même sur les réseaux sociaux, on te voit toi, donc forcément on va être lié à toi. Je dis pas après que tu vas forcément parler du club en soi, mais bon, le fait que tu sois sur les réseaux et que c'est quelque chose que t'assumes, ça peut peut-être freiner des fois des clubs, non?
Comme j'ai dit, après, je n'ai pas de grande attente avec les réseaux sociaux, j'ai pas de grande attache non
donc
plus.
Donc, footballeur avant d'être influenceur ou...
C'est ça, créateur de contenu. Si demain, je dois arrêter de créer du contenu pour le football, je le ferai sans hésiter. C'est pas une question.
Genre, c'est réel, il t'appelle demain, tu dis: bon, écoute, TikTok, désolé.
Je donne mon compte à mon petit frère.
Tu vas donner à Manu,
tu veux mon compte? Ah, je sais pas, ça va, pas de problème.
Après, il voit un chevelu, après un chaud. Il a vieilli, ce gars, c'est qui, lui?
Par contre, pour parler un peu de foot, ton parcours, parce qu'on parle d'aujourd'hui, mais ton parcours, ça a été quoi? Du coup, le parcours footballistique
de J'ai un parcours assez atypique, il est cool d'ailleurs. Je suis né à Paris, j'ai toujours grandi à Paris, j'ai commencé à jouer au CFFP, je pense que vous devez connaître, c'était à Orly. Après, j'ai signé à 13 ans à Créteil, et je jouais à Créteil jusqu'en U16. Après, c'était l'année des U17, on me propose, voilà, il y a deux U17 DH et U17 Excellence. On me dit, ouais, on ne voit plus pour l'excellence, je pense pas que ça va être possible de jouer avec l'excellence la saison prochaine. Et comme par hasard, par chance, je signe en U17 National. Ça veut dire, une meilleure équipe que la première équipe de Créteil en U17. Je fais une saison monstre. Passe D contre le PSG, frappe de 35 mètres contre Lille. Je fais une saison à 8 ou 9 buts en U17 national avec le FC Rouen. Je signe à l'US Orléans en U19 national. J'étais le seul, parce que je suis né en 2001, j'étais le seul 2001 surclassé avec les 2000. Je commençais, j'étais titulaire, et puis je me blesse au bout du troisième match de championnat. Après, c'était un peu compliqué, je reviens. Le coach, il avait déjà son équipe, qui était déjà en place. Du coup, j'ai joué quelques matchs à la fin. À la fin, on s'est pas entendu. J'ai signé dans une autre U19 nationale à Vannes, en Bretagne. Et là-bas, pour ma part, ça s'est bien passé car j'ai joué tous les matchs, mais collectivement, c'était bof. Après cela, parce que Vannes avait une Nationale 2 et une R1, Senior R1, j'ai commencé avec la Senior R1 sans broncher parce que je trouve que c'était une bonne étape déjà de passer de U19 National à R1. Match de prépa, je mets 4 buts en 5 matchs, je passe avec la Nationale 2, je commence à m'entraîner tous les jours, Covid.
Aïe.
Et là c'était compliqué, ouais. Covid, je dois rentrer sur Paris, j'étais en Bretagne, je dois rentrer sur Paris, je fais mes examens distanciels parce que j'étais encore à la fac, c'était un petit peu galère. Et puis un jour, je trouve pas de club jusqu'en septembre pour la saison prochaine. J'ai un ami qui me dit: oh, je peux pas rester sur Paris à rien faire, c'est pas possible. Du coup, je signais à Plabennec. Je devais faire 2 entraînements là-bas et je devais être pour la Nationale 2. Du coup, je fais les entraînements avec la B, qui était en R1. J'en fais un seul. Le coach de la R1 me dit: tu signes demain et et tu joues avec la Nationale 2 dès que tu seras prêt physiquement, parce que j'étais arrivé fin septembre. Et j'ai dit ok, pas de problème. J'étais super content. Du coup, changement de fac, j'arrive à la fac à Brest. Brest, c'est à côté de Plabennec. Et pour Plabennec, ça s'est pas passé comme je le voulais. Du coup, j'ai joué avec l'équipe 3, ouais. Ils m'ont fait jouer avec l'équipe 3 en départemental 1. Et du coup, là, je prends une petite gifle par la vie de passer de National 2 à Vannes à...
Ah, t'as dû te balader quand même.
Ah oui, non, ouais, là, oui, je m'étais triplé, doublé à tous les matchs, c'était le minimum. Mais c'était frustrant de voir que déjà je venais ni avec la 2, encore moins avec la 1, parce que je savais que j'avais le potentiel, les qualités pour jouer avec l'équipe 1.
Et t'as expliqué pourquoi ou pas?
Non, on va jamais expliqué.
Et t'as revu la personne qui t'a dit tu signes, plutôt pour la N2, tu dis dis-moi, l'autre fois.
N2, ça voulait dire.
C'était pas moi, N-2. Hein, c'était N2.
N2, bah oui, il s'est fait virer la saison d'après, donc j'ai pas pu le revoir. Mais ouais, c'était pas mal frustrant. Ouais.
Et après Plabennec?
Après Plabennec, j'ai fait une saison là-bas, je jouais avec l'équipe 3. Mais par malchance, j'ai raté un semestre de licence. Ça veut dire que je devais juste rester une demi-saison en plus la saison prochaine. Je leur ai dit, moi, je vais partir. Ils me disent, non, s'il te plaît, reste. Parce que la N2 est passée en N3. Là, c'est bon, à N3, tu vas truc. Je m'entraîne avec la N3 et je joue avec la 3.
À nouveau.
Je m'entraîne, je fais des entraînements avec la N3 et puis je joue pas avec l'équipe 2, hein, mais avec l'équipe 3. Et puis, j'ai pas compris. J'ai fait la demi-saison. J'ai eu ma licence en éco-gestion et je suis rentré sur Paris. Après, j'ai fait une demi-saison sans jouer. Je suis rentré en décembre, je fais une demi-saison sans jouer. Vient
Pyvens,
où j'ai eu le problème du coup de papier pour signer là-bas.
Qu'est-ce que tu fais du coup durant une saison alors, entre Pyvens et Lusitano?
Du contenu.
Entre Pyvens et Lusitano? Non, je n'étais pas encore créateur de contenu, ah, je lâchais quelques vidéos.
Tu n'as pas fait encore le geste.
Non. J'avais pas encore fait le geste, non. J'ai travaillé un petit peu en région parisienne, je suis rentré chez moi, je me préparais physiquement. J'ai eu une opportunité en Roumanie aussi. Je souffle parce que ouais, c'était Roumanie, c'était compliqué. Je pense que la capitale de la Roumanie doit être incroyable, mais j'étais à 5 minutes de la Serbie, c'était froid, les j'ai pas été bien accueilli, c'était frustrant. Ça du coup
des jeux trop longs.
C'était en quelle division?
Je pense ils étaient en Ligue 3. C'est Ligue 3 roumaine. Du coup ce qui était cool, je me disais premier contrat pro là-bas vu que tu peux signer professionnel. Ça s'est pas passé comme je voulais, les terrains étaient catastrophiques. Et puis, je suis rentré après, sur Paris, j'avais fait une saison et demie sans jouer. Et là, j'ai retrouvé ce club, qui m'ont donné l'opportunité et que j'ai fait une excellente saison.
On rappelle, le meilleur buteur et le joueur le plus utilisé par Lusitano.
Reda, on a 3 minutes. Je veux juste qu'on parle un petit peu de tes origines. Tu suis un petit peu la sélection de tes parents, enfin de toi aussi, si tu veux, ou pas?
Je la suis.
Parce qu'on va avoir un mondial en commun, je ne sais pas si tu sais.
Oui. Bien sûr, 2030, que je suis. Hein. Je suis de la génération où le Maroc a fait l'exploit à la Coupe du Monde.
En battant Portugal, Espagne.
Oui.
Ah bah voilà. Merci,
Non, désolé.
Et en perdant contre la France.
C'est vrai que oui, je suis énormément l'équipe marocaine, d'ailleurs, qui monte en puissance avec Hakimi, meilleur latéral droit au monde. On a aussi Bilal El Khanous. Très, très 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 bon élément à gauche. Non, franchement, on a d'excellents joueurs et j'espère qu'on ira loin durant la Coupe d'Afrique des Nations et puis la Coupe du Monde les prochaines.
Et Wydad, tu le suis
Non, Wydad, je suis moins.
Ah, attends, c'est quoi ton club de Casablanca alors? T'es le Raja?
Franchement, là, tu me poses une question.
Alors, est-ce que t'es les rouges du Wydad ou est-ce que t'es les verts du Raja?
Il faut pas la poser parce que si je dis Wydad et on me croise dans un coin à Casablanca ou c'est Raja, et si je dis l'inverse, là, je vais finir sans cheveux. C'est pas bon.
C'est pour ça qu'on a eu les deux couleurs.
Exactement. Non, pour l'instant, je suis pas des.
Il n'est que le rouge avec l'étoile.
Dans ta famille, ils sont supporters ou pas du tout? Sans vous dévoiler le club? Non, ils sont pas très foot.
Non, pas très foot. Non. Natation. Mon père était natation. C'était un nageur.
Bon, tu peux nous le dire là. Le meilleur couscous, il est algérien.
Algérien. Là aussi, tu m'apportes des problèmes. Non, je rigole. Pour moi, ouais, c'est le même.
Plat préféré des Français, quand même.
Sérieux?
Ouais. Ah, ils ont déjà fait des sondages et le plat préféré des Français, c'est le couscous.
Incroyable. J'aurais dit bacalhau con nata.
Ouais, parce qu'ils ne sont pas venus en 94 de faire un sondage.
Eh ben, en tous les cas, on termine. Merci beaucoup d'être venu à la tribune. J'espère que tu as aimé aussi de faire une première radio, c'est ça ?
C'est ma première, oui. C'était
Bon, pas la dernière.
Un excellent moment.
Pas, la dernière, non. Tu viendras.
C'est pas la première fois que j'en ai les locaux, d'ailleurs.
Quand tu auras des millions, tu viendras. Quand
tu vas dire des lacs, Manu.
Réda, en tous les cas, merci beaucoup. Et on croise les doigts, on pense le mot, on le dit pas, pour ton futur au niveau de footballeur et aussi de créateur de contenu.
Merci beaucoup.
On rappelle l'adresse TikTok ?
TOPS943.
Voilà, c'est le TikTok de Reda. Merci beaucoup, Reda.
Merci à vous.
Merci à vous aussi, les gars. Et à la semaine prochaine.
Bah,